Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de RDWA pour l'interview du jour. Je reçois aujourd'hui Amona qui vient nous parler d'une inauguration d'une nouvelle chocolaterie à Recoubaud-Jansac le 14 octobre. Bonjour à toi.
Bonjour tout le monde.
Alors de quelle chocolaterie on parle? Parce que c'est pas de n'importe quel chocolat que...
Nous on fabrique le chocolat Hieret, Thomas et moi. La marque, je crois, est un peu connue dans le Diwa. On fabrique du chocolat depuis 2014. On était à Boulk, puis à Glandage, et maintenant on déménage à Recoubaud. C'est cette tablette de chocolat ronde qui est très reconnaissable avec un petit singe sur la boîte.
Ouais, il y a des couleurs aussi un petit peu sur tout dépend les tablettes de vos chocolats.
Toutes les saveurs ont une couleur différente.
Et je crois qu'on les retrouve justement dans beaucoup de magasins du Diwa.
Oui, tous les petits magasins de proximité, les proxys Carrefour Express, Super U et les agités du local, la boutique artisanale à laquelle on participe à Diwa.
Très bien.
Et puis bientôt chez nous. À Recoubaud.
Tout à fait. Parlez-nous de ce projet. Pourquoi Recoubaud et quelle différence il y aura par rapport à Boulk et Glandage?
Eh bien, à chaque fois, c'était des déménagements de maisons. Donc voilà, on est atterri dans le Diwa il y a 10 ans à Boulk. Donc on a commencé à faire du chocolat dans notre cuisine. Et puis il y avait toujours les voyages en Côte d'Ivoire chaque année pour aller transformer la fève de cacao en chocolat là-bas. On a déménagé à Glandage et là, on a fini par trouver un atelier chez des amis. Cette année, ça fait déjà un an, on a déménagé de maison à Recoubaud. Cette fois, on aura un très grand atelier de 90 mètres carrés, donc atelier et boutique.
Comment vous êtes arrivé sur le territoire, justement? Là, tu mentionnais que vous étiez arrivé à Boulk il y a 10 ans. Pourquoi ce territoire-là et pourquoi avoir eu envie, en tout cas, de proposer du chocolat de qualité? Parce qu'on va en parler un petit peu après, mais il y a vraiment un côté éthique aussi et rustique. Vous portez des valeurs assez importantes. Donc, c'est toute une démarche quand même que vous proposez par la production de votre chocolat.
Mon compagnon et moi, on a vécu... moi, je suis ivoirienne, j'ai grandi là-bas. Quand j'ai passé le bac, je suis venue en France pour étudier. Mais on a vécu ensemble en Bolivie. Et là-bas, on a rencontré des amis qui nous étaient chers. Et ils avaient décidé de s'installer à Glandage, dans le Diwa. Et ils ont trouvé une ferme à Glandage. Et finalement, on est arrivé quelques années après eux. Et on s'est installé à Boulk, puis à Glandage pour cette amitié. En fait, c'est un projet qui est né pour nous plutôt en 2008-2009. On est retourné vivre là-bas. Enfin, pour Thomas, c'était une première fois en Côte d'Ivoire, avec l'idée de voir si on voulait s'installer. Je travaillais dans des ONG et j'ai découvert le cas le problème du travail des enfants dans les plantations de cacao. Mon grand-père était planteur de cacao et à une époque où le cacao rapportait beaucoup d'argent aux planteurs et à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays un peu particulier dans le sens où aujourd'hui, c'est le premier producteur mondial de cacao, mais qui produit 40% de la production mondiale. Donc c'est vraiment une culture très très importante pour la Côte d'Ivoire. Et on dit qu'il y a à peu près au moins un tiers des Ivoiriens qui vivent directement ou indirectement du cacao, qu'ils soient planteurs, revendeurs... femmes de planteurs, enfants de planteurs, etc. Donc à l'époque, le cacao était très bien payé. Et en réalité, si on regarde la valeur nominale du prix, elle est identique aujourd'hui à celle qu'il y avait dans les années 70. C'est-à-dire qu'on est 50 ans plus tard avec un prix qui n'a pas évolué.
Ouais.
Et donc ce prix, il est aujourd'hui tout juste supérieur au prix de revient, au prix que le paysan est obligé de mettre pour produire du cacao. Donc ce que ça lui coûte en main d'œuvre, par exemple, parce qu'au moment de la récolte, il faut beaucoup de gens au même moment, donc il faut payer des gens. Et donc il n'y a pas tellement de surprise qu'avec un prix très bas, la seule manière de dégager un petit bénéfice pour faire vivre sa famille, c'est de ne pas payer les manœuvres. Et pour ne pas payer des manœuvres, On prend des gens qu'on paye vraiment pas cher et même des enfants.
Donc il y a tout un problème qui est très connu en fait dans le monde depuis 2001. En fait, c'est depuis 2001 qu'il y a un signalement international et une menace de boycott des États-Unis sur le cacao ivoirien. En réalité, depuis des années, les multinationales, ce qu'elles font, c'est qu'elles disent qu'elles sont bien au courant, qu'elles vont faire quelque chose, qu'elles font des campagnes de sensibilisation pour dire aux paysans que c'est pas bien, qu'elles disent que la solution, c'est que les paysans produisent plus, mais pas qu'ils soient payés plus. Donc voilà, elles vont faire des tournées pour essayer d'améliorer la productivité. Mais au niveau du prix, en fait, il ne s'est absolument rien passé. Donc ça, c'est très triste. Et nous, donc on était en Côte d'Ivoire en 2008-2009. On a eu un peu cette idée un peu classique des tiers-mondistes qui a émergé dans les années 70 et puis voilà, qui est toujours importante du commerce équitable. Et puis deuxième idée de la transformation sur place, c'est-à-dire qu'on fait longtemps qu'on dit que c'est les pays du Sud ne font que produire des matières premières sans les transformer sur place, et ben elles vendent un produit à un prix bas et en plus elles n'ont pas de pouvoir de négociation sur ce prix et elles se privent de tout ce qui est valeur ajoutée de travail en fait pour transformer ces matières. Donc à l'époque on avait rencontré plein de coopératives qui se lançaient dans le commerce équitable en Côte d'Ivoire. C'était très intéressant. On a pu découvrir les labels Max Avelar, qui est le label de commerce équitable connu, et puis d'autres labels concurrents qui étaient en train d'émerger et qui en réalité poussaient plutôt vers le bas les critères de commerce équitable. Et puis ce qu'on constatait aussi, c'est que le prix commerce équitable Max Avelar, en fait, ne permettait pas une réelle différence sur le terrain pour les paysans. D'ailleurs, bon, c'est assez documenté dans plein de reportages qu'il y a eu depuis les années 2000 sur est-ce que le paysan certifié commerce équitable en Max Avelar en cacao en Côte d'Ivoire, donc tout ça est très circonstancé, ça ne veut pas dire que plus largement un autre produit ou dans un autre pays, ce serait la même chose. Mais en tout cas, pour le cacao en Côte d'Ivoire, la certification commerce équitable, Max Avelar, ne veut pas dire que le paysan touche plus, ni même que le paysan est au courant qu'il fait partie d'une coopérative certifiée. Parce que ce prix équitable était vraiment trop bas. Donc nous, on avait aussi comme idée cette transformation de la fève de cacao. Et on avait proposé à des coopératives, mais est-ce que ça vous intéresserait? Comment est-ce qu'on pourrait faire la transformation? Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, bon, ben, au lieu de dire aux gens, faites la transformation, vu que les coopératives, elles ont déjà d'autres problèmes à régler, peut-être que nous, on pourrait se mettre à transformer la fève de cacao.
Donc vous êtes venu acteur de tout ça.
Voilà. À l'époque, on a fait un peu de recherche sur Internet, mais comment on transforme le cacao? En fait, nous, on n'est pas du tout du milieu. Et on avait même demandé un devis à une entreprise qui fabriquait des machines de transformation du cacao. Et voilà, un petit devis à 1 million d'euros. On s'était dit, bah, en fait, c'est pas pour nous, c'est pas possible, etc. Et puis... on a repensé à une expérience qu'on avait vue quand on était en Bolivie, d'une sorte de chocolat qui était vendu au bord de la route en Amazonie, plié dans une feuille de plante, de végétal, quoi. Et donc, manifestement, du chocolat qui avait été fait sans électricité. Et donc, on s'est dit, ben, peut-être qu'en fait, il y a manière de faire autrement. Donc, dans notre cuisine, on a grillé les fèves de cacao dans des casseroles, au four. On a fait plein de sortes d'expérimentations. On les a décortiquées à la main. On les a broyées au pilon, à la bouteille sur pierre. Et puis, ben, oui, ça ressemblait à du chocolat, malgré tout, malgré notre incompétence. Et après, on a enquêté sur les marchés en Côte d'Ivoire. Il y a des machines de transformation des produits agricoles qui servent souvent à des femmes qui vont, par exemple, commercer de la farine de maïs ou qui vont faire de la pâte d'arachide. Voilà, et donc ils viennent avec des matières premières dans ces moulins, c'est-à-dire des petites pièces avec des machines très simples qui sont faites pour plusieurs utilisations. Et puis elles transforment à façon, elles payent quelque chose à la personne qui opère les machines, et puis elles vont vendre sur le marché. Et donc on est arrivé nous aussi pareil avec nos fèves de cacao grillées, et puis on a essayé les machines. Et ça marchait, malgré ces machines qui n'étaient pas adéquates.
Forcément faites pour ça. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Comme quoi, des fois, on arrive à faire pas mal de choses avec ce qu'on a, le minimum, ça marche aussi, quoi.
Et ben, beaucoup de choses, en fait, ont été inventées avant le temps des machines, avant le temps des machines à 1 million d'euros.
Tout à fait. On a tendance à l'oublier, mais oui.
Et donc, en fait, y a des manières de faire manuelles, puis artisanales à toute petite échelle, puis artisanales à plus moyenne échelle, etc.
Et vous êtes vraiment, du coup, sur une transformation artisanale qui cultive donc l'autonomie et l'équité.
Oui, on a continué sur cette ligne, en fait, et on a acheté des machines en Côte d'Ivoire, les mêmes machines qu'il y avait dans ces moulins, donc des machines fabriquées en Côte d'Ivoire, qui n'étaient vraiment pas très techniques et pas très chères. Avec un petit investissement, on a monté un atelier là-bas, on a trouvé une équipe avec qui travailler, et puis on a fait ce chocolat qui ressemble à du chocolat mexicain, parce qu'on avait aussi travaillé et vécu au Mexique.
Le chocolat, c'est une histoire de voyage, du coup, parce que Mexique, Côte d'Ivoire, Bolivie, c'est né aussi en fait de vos expériences de voyage, cette envie de travailler le cacao, la fève de cacao et le chocolat.
Oui, tout à fait, parce qu'on a d'abord eu cette idée parce qu'on avait vu quelque chose en Bolivie, parce qu'on était en Côte d'Ivoire, et puis on a voulu lancer le projet en 2010, mais il y avait la guerre en Côte d'Ivoire qui a commencé suite aux élections de 2010. Et en fait, on est parti 2 ans au Mexique aussi pour travailler dans une ONG. Et là, c'était génial parce que c'est le pays d'origine du chocolat. Chocolat, c'est un mot aztèque, chocoatl. Et c'était donc justement des fèves de cacao transformées à la main et qui servaient surtout à faire des boissons. Enfin, c'était une boisson, la boisson des dieux. Et donc là-bas, c'était très inspirant de rencontrer plein de petits artisans qui faisaient du chocolat à façon. On arrive le matin, on se dit, bah tiens, j'ai envie de, je sais pas, du chocolat avec 20% d'amandes. Je vais demander ça à mon petit artisan, il me le fait, il me le donne, et puis voilà.
Trop chouette.
Voilà, et on s'est formé là-bas justement un peu à comment les gens faisaient avec des moyens moins importants. Et on a commencé à notre tour du Mexique en 2014. Voilà.
Et comment ce projet a été reçu du coup sur le territoire? Est-ce que ça a pris du temps un petit peu à se former? Est-ce que vous avez eu du retour aussi sur votre transformation, sur vos chocolats?
Eh ben, je trouve qu'il y a un accueil, un bon accueil sur le territoire. Bon, c'est plutôt un territoire de toute façon d'expérimentation et d'artisanat, voilà, qui foisonne un peu dans tous les sens. C'est un chocolat qui est très particulier. Parce qu'il a cette transformation simple, avec des outils simples. Donc ça donne un chocolat qui n'a pas la texture standard du chocolat industriel lisse en bouche. On sent les grains de cacao quand on croque dedans. Donc c'est comme un chocolat traditionnel qu'on trouve au Mexique ou dans les Antilles, enfin à plein d'endroits où le chocolat existe depuis longtemps. Et justement, les gens qui aiment ce chocolat, c'est plutôt des gens qui aiment l'artisanat, qui aiment les produits... Brut, nature. Donc on était sur le bon territoire, je pense.
Et qu'est-ce qui vous plaît le plus à vous et à votre conjoint dans cette conception-là de créer du chocolat?
Ce qui nous a plu, c'était de jouer. C'était une aventure. En fait, on a cherché à savoir comment on faisait le cacao, comment le transformer, le chocolat, comment le transformer à la main, faire des expérimentations, trouver des machines, trouver une équipe, trouver une coopérative, découvrir le monde de l'exportation. Et puis ensuite, y avait aussi tout à créer ici. Les formes étaient très différentes au départ. Au départ, notre chocolat était plus compact et en fait, on le moulait à la main. Et on faisait des dessins individuellement sur chaque disque, voilà, vraiment à la mexicaine. Et après, il y a eu plein d'autres choses à construire le moule très particulier aujourd'hui qu'on a, avec donc cette forme ronde, avec le singe sur la tablette, les emballages, enfin voilà. Il y a eu beaucoup de choses nouvelles à faire.
Bah ouais, j'imagine, c'est tout un art.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa. 107.5,
101.7
FM.
Pour revenir un petit peu à l'inauguration que vous proposez le 14 octobre, peut-être que tu peux nous parler de ce qu'on va y trouver sur cette journée-là, dans votre nouveau lieu à Recoubo.
Alors, notre nouveau lieu se situe à Roquebel, c'est cet ancien gîte tout en longueur qu'on voit à la sortie de Recoubo en direction de Luc, en contrebas sur la gauche. Dans ce nouveau lieu, en fait, on est plusieurs à avoir emménagé, plusieurs familles, à avoir emménagé en même temps. Et c'est juste à côté de Maison Oiseau qui a ouvert il y a un an, un salon de thé brocante. Et ce samedi 14 à 17h, l'inauguration consistera d'abord en une démonstration. Donc on va fabriquer du chocolat, on va expliquer comment on fait, expliquer notre parcours et voilà avec qui on travaille, la coopérative La SEB, la coopérative équitable. Qui nous fournit du cacao biologique et donc équitable, mais sur un autre modèle. Je vous en ai pas encore parlé. Après la démonstration, il y aura une dégustation et un goûter avec nos produits. Et puis à 19h, la projection d'un documentaire dans le cadre du Festival Alimentaire, qui est un festival national sur l'alimentation et l'agriculture durable, la transition écologique qu'il faut dans ces secteurs. C'est un festival qui propose une dizaine de documentaires sur différents sujets, sur ces thématiques-là. Mais celui qu'on diffusera s'appelle Côte d'Ivoire, Toxic Afrique, et ça parle justement des pesticides utilisés notamment dans les plantations de cacao, mais plus généralement en Côte d'Ivoire. Sans encadrement de l'État et aussi sans peut-être la connaissance de la part des paysans qui va avec. Aussi en France, les paysans ont été peut-être un peu longtemps, on va dire, sans
inconscient
ouais. des conséquences des pesticides sur leur propre santé. Et bien, en Côte d'Ivoire, ça va encore plus loin. Donc voilà. Donc la projection à 19h et puis voilà.
Très chouette. Un bon rendez-vous à ne pas louper. Est-ce que tu veux revenir sur le fait de la coopérative dont tu ne nous as pas parlé ?
Oui, la coopérative équitable du Bandama, donc aussi dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. C'est la première coopérative qui s'est convertie au bio et qui a pu le faire parce qu'en face, elle avait un client... important qui lui a consenti un vrai prix équitable, qui n'est pas nous, qui est le chocolat étiquable qui se trouve en supermarché. Et ce prix, en fait, il est en général 2,5 fois supérieur au prix du marché. Donc c'est un vrai prix qui permet aux paysans de vivre dignement, d'envoyer leurs enfants à l'école et aussi à la coopérative de faire des projets pour le village. Et puis qui travaille, donc cette coopérative travaille sa manière de cultiver en bio depuis 2008 et elle est pionnière en agroécologie, donc planter des arbres dans les plantations, utiliser la litière de forêt pour produire à la fois des engrais bio et des moyens de lutte contre les champignons et les insectes qui peuvent attaquer les arbres. Et c'est une coopérative assez modèle en Côte d'Ivoire qui reste très petite, donc autour de 100 membres, mais qui est complètement ignorée par l'État qui ne s'intéresse pas à ce genre de choses en Côte d'Ivoire. Mais voilà, donc nous on travaille avec eux depuis 2015 à peu près.
Et j'ai pu voir aussi sur votre site internet, alors peut-être que tu auras envie d'en parler pour les auditeurs auditrices, que vous êtes vous faites également partie du réseau international Slow Food.
Oui, alors depuis le confinement, il n'y a plus de voyages internationaux et notre participation n'a plus lieu.
D'accord.
Mais le réseau Slow Food, c'est un réseau qui est né en Italie. Contre l'implantation d'un fast-food dans un petit village et avec l'idée qu'il y a beaucoup de traditions culinaires évidemment en Italie et que passer à fast-food c'est perdre son patrimoine et c'est encourager aussi une agriculture qui n'est pas souhaitable. Et donc c'était extrêmement intéressant de participer à ces rencontres de slow food parce qu'il y avait des producteurs du monde entier, à la fois paysans, artisans, restaurateurs Et c'était l'occasion de rencontrer d'autres chocolatiers improbables qui venaient du Togo, de l'Équateur, du Mexique. L'artisane chocolatière avec qui on s'est formé au Mexique faisait partie de ce réseau et c'est pour ça qu'on y allait à chaque fois.
Comment ça se passe la formation au Mexique justement ? C'est des gens qui ont vraiment l'envie de transmettre leur savoir et du coup on peut y aller avec une certaine curiosité et apprendre directement.
Eh ben, c'était pas du tout une formation formalisée.
Je me doute bien.
Donc ça s'est passé dans la cuisine de notre amie. Et puis ben voilà, on a transformé la fève avec elle. On a parlé de son expérience, enfin de ses expériences. Qu'est-ce qu'elle a fait au départ? Comment elle a amélioré ses techniques? Et voilà. Et mais les gens, effectivement, les artisans sont très contents d'échanger. En fait, il n'y a pas de secret autour de leur savoir-faire. Mmh. Parce que c'est un savoir qui ne leur appartient pas. C'est un savoir qu'ils ont hérité, qu'ils transmettent. Voilà. Et il y a plus de secrets, je pense, en France aujourd'hui, autour de ça, qu'au Mexique, où voilà, c'est plutôt une compétence ouverte.
Pour le jour de l'inauguration, est-ce qu'il faut réserver ou est-ce qu'on peut venir comme nous sommes, avec le sourire et l'envie d'apprendre et de déguster du chocolat ?
On n'a pas prévu de réservation. Chacun peut venir comme il est. peut-être juste le parking, il faudrait prévoir de se garer plus haut dans Recubo au niveau des poubelles. Voilà.
Et puis toujours penser au covoiturage, hein, même pour les petits trajets. C'est cool d'avoir des démarches conscientes à chaque fois pour toutes les actions qu'on peut mener.
Voilà.
Est-ce qu'on peut revenir peut-être une dernière fois aussi un petit peu? Du coup, on en a parlé un peu entre tout et brièvement à la fois, mais du coup, des valeurs que vous portez par rapport à toute cette transformation-là et...
Justement, on s'est dit que d'utiliser des machines locales, de faire ça simplement avec peu d'investissement, c'était se permettre à nous qui ne sommes pas des gens avec beaucoup de capitaux de vivre d'un travail en dehors de comment dire, on pouvait choisir notre vie, choisir notre métier, voilà. Et c'était aussi démontrer par l'exemple que c'était possible pour d'autres de se lancer en Côte d'Ivoire, de transformer la fève avec peu de moyens. Et toujours de notre part l'idée de pouvoir d'être transparent sur comment on fabrique, d'ouvrir nos portes à ceux qui étaient intéressés à apprendre. Aujourd'hui, alors c'est pas du tout grâce à nous, mais c'est un mouvement dans lequel on s'est inséré aussi sans savoir. Aujourd'hui, il y a une dizaine de petits transformateurs en Côte d'Ivoire. Donc c'est super chouette que ça arrive. Et c'est aussi concomitant à un mouvement en Europe, aux États-Unis, de petits transformateurs du cacao qu'on appelle bean to bar, donc de la fève à la tablette. Ou cacao févier en français, ou théobromeur si on invente d'autres façons de dire, ou torréfacteur de cacao, qui ont envie de s'extraire d'un monopole en fait de multinationales très très grosses sur le cacao, mais bon, c'est évidemment la même chose dans d'autres secteurs. Mais sur le cacao, il y a 3 multinationales à peu près qui font 90% du chocolat qu'on mange.
Et qui n'est pas forcément plus de qualité.
Qui n'est pas de qualité, en tout cas, pour les paysans, sur le prix qui leur est payé. Et puis, c'est plutôt c'est du chocolat de masse qui peut être bon, mais qui ne va pas, en tout cas, être typique. Enfin, qui va, par exemple, mélanger des fèves un peu du monde entier pour harmoniser le goût. Enfin, et qui va mélanger des récoltes de différentes années pour que le goût soit toujours le même. Qui va, par exemple, torréfier un petit peu plus que nécessaire pour cacher... Les fèves qui ont mauvais goût et qui sont mélangées au reste des fèves. Par exemple, nous, au départ, on n'avait pas encore trouvé la coopérative La Seb et on a acheté au bord de la route du cacao à n'importe qui et puis aussi à la coopérative du village dans lequel il y a notre atelier. Et ce cacao est en qualité est vraiment très très bas par rapport à ce que nous on achète, ben parce que le paysan est mal payé. Du coup, d'abord, il ramasse tout ce qui traîne dans sa plantation, des fèves pourries, des cailloux, etc. Et puis, les récoltes ne se sont pas forcément faites au bon moment, donc il y a des fèves qui sont pourries dans les cabosses. La fermentation n'est pas forcément faite dans les règles de l'art, parce qu'il n'a pas assez de main d'œuvre, et puis ça ne l'intéresse pas, il n'est pas mieux payé s'il le fait bien. Et donc, nous, on avait trié nos fèves et on allait en jeter un tiers. Et la coopérative du village a dit « Ah mais non, surtout pas, vous me les revendez un peu moins cher, moi je les remélange et hop, ça part pour le flux mondial. Tout est mélangé et voilà. »
Donc on pourrait presque se dire qu'on n'a même pas vraiment une réelle connaissance du goût du chocolat. Quoi. Pour certaines personnes qui ne sont pas habituées en tout cas à goûter le vrai chocolat.
Moi, c'était une expérience assez incroyable pour moi d'aller au Salon du Chocolat à Paris, ça se passe une fois par an, et de découvrir toutes les provenances de cacao et toutes les manières différentes de le traiter. Et c'est vrai que là, tout à coup, on se rend compte que le chocolat, c'est tout un monde, un peu comme le vin, en fait.
Ok, ouais, j'imagine que c'est tout un monde. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets sur du moyen-long terme avec votre chocolaterie et votre fabrication artisanale de chocolat ?
Eh bien, déjà, on a quelque chose de nouveau, c'est que malheureusement, on ne transformera plus le cacao en Côte d'Ivoire, mais on le transformera ici. Donc je dis malheureusement parce que c'est un peu triste d'abandonner ce qui nous a motivés pendant ces années, presque 10 ans, qui était de faire la transformation en Côte d'Ivoire pour créer du travail en Côte d'Ivoire. On le fait parce qu'on n'a jamais réussi en presque 10 ans à s'ouvrir un droit à exporter le cacao de la Côte d'Ivoire. En fait, le cacao est très régulé par l'État ivoirien, mais cette régulation, elle est destinée aux multinationales. Donc, ceux qui sont trop petits ne rentrent pas dans le cadre. Et voilà. Donc,
dommage.
On a survécu pendant 9 ans à trouver des manières de faire, mais au bout du compte, on est obligé de changer. Donc maintenant, on va transformer en France. C'est aussi chouette parce que ça nous permet de renouveler notre travail, de faire différemment. Aussi de mieux parler de ce travail de transformation, de pouvoir le montrer. Et ça peut être intéressant pour les gens de venir voir ce travail. On va proposer des ateliers.
Régulièrement.
Ouais,
trop chouette.
On a beaucoup de choses à mettre en place, donc pour l'instant, on se contente d'ouvrir.
Oui, c'est déjà un bon boulot d'ouvrir un nouveau lieu et du coup, donc un grand espace avec une boutique où donc on pourra venir acheter vos chocolats directement à Rokubo-Jonsaï.
Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur cette interview ?
Non, c'était super. Merci beaucoup, Malorie.
Merci à toi d'être venue. C'était du coup la chocolaterie Yéré pour l'inauguration le 14 octobre à Rokubo. Et vous pouvez évidemment retrouver cette interview sur www.rdiwa.fr. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Petit carré, ça ne tourne pas rond. Quant à tes racines, on t'associe toujours à la zone alpine. C'est marrant, j'ai jamais vu de cacaoyer. Petit carré, quelles sont tes origines ? Raconte-moi ton arrivée jusqu'ici. Serait-ce une cale de bateau qui te turlupine ? Une histoire cachée tout au fond des abîmes. L'Atlantique se souvient peut-être d'une époque où l'ébène s'obtient pour des indiennes. En fait, tissu helvétique de belles fabriques. Puis l'ébène se troque et compte la graine magique. Désolé si je croque dans les tabous, mais le monde est tabou depuis le temps qu'on les scroque. Par vanité, petit carré, tu es métisse, enfant d'un crime contre l'humanité. Petit carré, à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, tu pourrais demander pardon. Petit carré, à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, j'aurais pu m'en tenir au premier couplet. Quand le lait et le cacao s'accouplaient pour la première fois, mais l'histoire se répète. Autre contexte dans un autre endroit. Cette fois, on reste en Afrique de l'Ouest. La course au fric ne lâche pas plus de lest. On a varié les pratiques et quant aux lois, une éthique d'apparence, vu que l'humain a des droits.
Au port, les entreprises amassent les graines. Y'a un prix fixé et des intermédiaires. Alors ça débite les enchères et au début de la chaîne, vu à combien ça achète, on se débrouille à peine. Et ces enfants dont on fait trafic, fausses promesses aux parents des pays limitrophes. Les planteurs payent si peu qu'ils ne s'en tirent pas. Se paye un brin d'espoir dans ces paires de petits bras. Petit carré à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, tu pourrais demander pardon. Petit carré à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, petit carré. Carré, remède à la déprime, dit-on. Y'a comme une fausse note cachée dans les demi-tons, dans les milliers de tonnes, derrière les milliards, des mômes privés d'avenir, petit carré corbillard. Ne venez pas me dire que l'on fait ce qu'on peut, mesdames, messieurs les pilleurs, pour qui l'humain compte peu. Des chiffres et des aides consomment, le but du jeu, que le compte soit bon, qu'on amasse des sommes. Je viens du pays où Nestlé, gens riches et polis, mais dont le cœur a caillé. Une démocratie qui barille, calbo au rôle, qui se dit neutre, c'est presque trop drôle, mais c'est pas le cas. Encore des efforts à faire, de trois étranges affaires à sortir du caca. Oh, au goût triangulaire, à l'arrière-goût amer dont on n'a rien à carrer. Petit carré, à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, tu pourrais demander pardon. Petit carré, à l'arrière-goût, triangulaire qui remonte après coup. Une équation qui ne tourne pas rond. Petit carré, petit carré.
Vous êtes bien sur Radio Diwan.